c'est pas bon.
Si on fait défaut, en fait.
Oui.
50 milliards qui manquent.
Oui. Il manque plus.
Enfin, il y a 50 milliards d'intérêts, mais il y a aussi 50 milliards de, déficit primaire.
Oui. Bah, le déficit primaire, il va falloir le combler. Donc, il faut récupérer.
On ne pourra plus emprunter.
Non, on ne pourra plus emprunter. Oui, donc il faut trouver 50 milliards. Oui, non, mais ça, sinon, si vous voulez, la contre-opposée de ça, c'est de dire c'est pas grave, on va s'endetter en permanence. Donc en permanence, la dette va monter jusqu'à plus l'infini. C'est ça que ça veut dire.
Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, on est d'accord. Mais c'est vrai que
Mais il y a un effort à faire. Mais je ne dis pas que ce n'est pas douloureux. Il faut remettre. Mais c'est exactement ce que fait la Grèce. Vous verrez cette semaine sur le blog. J'ai travaillé ce week-end sur toutes sur le budget grec, qui est très amusant. Donc la Grèce n'était pas en déficit primaire avant la crise. Avec la crise, est devenue un déficit primaire. C'est le déficit avant de payer les intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 200 de recettes, 300 de dépenses, dont 50 d'intérêts. Donc autrement dit, avant de payer vos intérêts, vous êtes déjà dans le trou de 50 milliards. Ce qui est énorme. C'est ce qu'on appelle un déficit primaire. L'Italie est en excédent primaire. Donc autrement dit, avant de payer les intérêts de sa dette, elle est en excédent. Donc en fait, elle se ruine. C'est une bonne question. Exactement. Ouais, mais ça, c'est une vraie question. Donc, les paillotes, c'est tout à fait, il n'y a aucune raison. Elle est dans une situation extrêmement favorable. Évidemment, pour faire défaut, le mieux, c'est d'être en excédent primaire. Autrement dit, évidemment, quand vous faites défaut, il ne faut pas retourner sur les marchés pour dire bonjour, est-ce que vous pouvez me reprêter de l'argent? Ça peut, vous avez Roberto Lavagna qui vous dit, ce qui se comprend aussi, à la rigueur, que dès que l'Argentine a fait défaut, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des banques qui ont voulu lui reprêter de l'argent. Mais c'est vrai, parce qu'une fois que vous avez fait défaut, vous êtes revenu à zéro de dette, ou pas beaucoup. Donc vous n'êtes plus en risque de dette, vous n'allez pas refaire un défaut dans les 10 ans qui viennent. Mais c'est normal. Imaginez qu'on fasse défaut, vous ruinez. Enfin, c'est quoi la situation? Un an après le défaut, vous avez la France, elle a zéro de dette, vous avez l'Italie qui a 100% de son PIB de dette. Vous prêtez à qui? Je prête à la France. Je sais qu'il vaut peut-être mieux que je sois pas là dans 30 ans. Mais en tout cas, dans les 5 ans qui viennent, j'ai quand même pas trop de risques. Bon, en pratique, c'est quand même compliqué, mais il ne faut pas retourner sur les marchés. Évidemment, ça aussi, on vous dit qu'il ne faut pas faire défaut, il faut payer sur les marchés. Je pense qu'il ne faut plus faire de déficit, surtout, vous n'avez plus besoin d'aller sur les marchés. Donc les solutions qui consistent à dire, le système actuel là, de financement par les marchés est en effet très dangereux. Il n'y a qu'à imprimer de l'argent, et non, je pense que si, c'est pas mieux. Je pense que juste, il faut prélever des impôts, en fait. C'est pas l'argent qui manque en France. Je ne suis pas un apôtre des impôts, mais enfin, il faut arrêter de faire n'importe quoi, sinon ça finit vraiment, vraiment mal. Et on est dans une phase où tout est mondialisé, où toutes les banques sont en lien avec les unes avec les autres. Enfin, on n'est même plus dans des situations du XXe siècle où, à la rigueur, on faisait défaut, vous ruinez une partie de l'épargne du petit paysan à Carpentras qui avait mis un petit peu de son épargne chez vous. Bon, voilà, c'était pas cataclysmique non plus. Douloureux, mais pas cataclysmique. Là, maintenant, vous êtes sur des niveaux qui sont très, très, très dangereux. Mais malgré tout, il y a quoi comme autre solution? Moi, je suis preneur. Mais de toute façon, tout le reste, ça finit par dire soit il faut imprimer de l'argent, soit tout va bien se passer, dormez tranquille, on va continuer à nous prêter de l'argent. Ben, tant mieux, j'espère. Hein. J'espère me tromper. Bon, enfin, on va jusqu'à quand? Enfin, quand on a 20 000 milliards de dettes, on s'arrête aussi Au bout d'un moment, les créanciers vont avoir peur, ils auront raison d'avoir peur. Je vous ai cité les chiffres tout à l'heure, c'est est-ce que vous mettriez votre argent dans une entreprise qui ferait ça? Regardez la belle entreprise, 40 ans qu'elle est en perte, la boîte. Ah bah, c'est rassurant. Elle fait des efforts? Non, très peu. Son déficit, c'est la moitié de son chiffre d'affaires. Ah bah, Ah ouais, il faut lui prêter de l'argent. C'est noté triple A. Heureusement que c'est pas noté triple B, parce que sinon, je sais pas ce que ça donnerait. Voilà, mais non, c'est vraiment pas une bonne idée de faire défaut. Je dis juste, vous savez, moi, j'ai rien à vendre. La posture que j'essaye d'avoir, c'est celle d'un météorologue. Je sais pas, c'est pas la meilleure des professions, j'entends bien. En tout cas, j'essaye de dire, bon, je vois ce qui se passe, j'essaye scientifiquement de dire, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il y a ça. Bon, mon opinion, c'est que mon opinion. Et voilà, enfin, la conclusion, c'est qu'en effet, il va y avoir un ouragan qui nous vient dessus. Bon, on l'a créé, l'ouragan, c'était prévisible, on nous avait averti, on l'a fait quand même. Bon, c'est malheureux. Je dis pas que c'est bien. Je ne suis pas un amoureux des ouragans. J'essaie juste de dire, il y a un ouragan, mettez-vous à l'abri. Bon. Et il y a des chances, désolé, que le toit de votre maison parte. Bon, bah, ça arrive tous les 50 ans, on s'en remet, et après cette phase-là, on repart de l'avant, et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de prospérité après. Et je peux vous dire le contraire. Hein. Je peux vous dire, non, tout va très bien se passer. Mais il faut juste pas s'étonner de ceux qui vous disent que tout se passe très bien, que semaine après semaine, ils soient démentis par les faits. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi la crise elle dure aussi longtemps, c'est que toutes ces pertes gigantesques qui ont été faites en 2008 par le système bancaire, puis par l'économie réelle, qui a été reprise par les États qui se sont endettés de façon colossale pour soutenir l'économie, parce que finalement, si vous regardez, on est en récession profonde, voire en dépression depuis 2008. Alors, la croissance, entre guillemets, on peut en reparler, la croissance après est revenue, mais elle est revenue. C'est quand même énorme. Cette année, tiens, vous avez vu le budget 2012, c'est 1% de croissance. Vraiment, on va être sérieux, on va mettre 1% de croissance. Le déficit de l'État l'année prochaine, c'est 5% du PIB. Autrement dit, pour avoir plus 1, l'État, il fait sur le niveau du pays, moins 5. Pour moi, ça veut dire qu'on est à peu près à moins 4 quand même de croissance. En tout cas, si on est sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc l'État s'endette pour essayer de maintenir à flot et d'éviter ce réajustement monétaire et ce réajustement comptable. Je répète, c'est qu'un réajustement comptable, si brutalement on ne pouvait plus rouler la dette va baisser. Donc automatiquement, il faut que le patrimoine privé baisse en face. C'est ça qui va se passer, c'est la comptabilité. Si je ne peux plus rouler la dette, je suis obligé de diminuer la dette. C'est un truisme. C'est-à-dire, si je ne peux pas me re-endetter plus, ma dette, comme elle arrive à échéance et que j'en rembourse beaucoup, elle va baisser fortement. Mais 1 euro de dette en moins, c'est 1 euro d'épargne privée en moins. Il faut juste savoir qui va perdre 7 euros, c'est de ça dont on parle. Et ça, s'imaginer que personne ne va perdre 1 euro, c'est faux. Ça, c'est du rêve. Je répète, le même argent a été dépensé 2 fois par le passé. On attend juste le rééquilibrage, où il va falloir rendre l'argent qui a été dépensé par le passé, c'est du crédit. Quand vous vous endettez pour une maison, vous avez de l'argent qui vous est donné, vous achetez votre maison, vous avez 29 ans, pour dépenser moins tous les mois, et puis tous les mois rembourser ce qui vous a été donné. Bon, bah, c'est ce rééquilibrage-là qui risque de se passer violemment. Parce qu'il est tellement important que par des mesures de rigueur ou des mesures... moi je suis pour la rigueur en général, hein, vous avez compris, enfin j'espère. Mais la rigueur, ça marche très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut le faire en 1990, quand votre dette, elle n'est pas grosse. En 2011-12, c'est plus possible. Vous êtes sur des niveaux qui sont astronomiques. Vous n'arrivez plus. La rigueur qu'il faudrait, et je pense qu'ils vont essayer, hein, je pense qu'ils vont essayer. De toute façon, regardez la Grèce dont je vous ai parlé tout à l'heure. 4 points de TVA en plus, 20% de moins sur le salaire des fonctionnaires, 15 à 20% de moins sur les retraites. Bah, ça fait en ce moment du moins 6 à moins 7 de récession. Et vous verrez cette semaine le déficit 2010 de l'État. Puis je vous trace le déficit 2011. Il est largement plus grave qu'en 2010. Donc autrement dit, le gouvernement est en train de dire on va tous se serrer la ceinture, faire des gros efforts. À la fin de l'année, il leur dit regardez, ça supermarché, c'est encore pire qu'avant de le faire. C'est sympa comme système. Il va falloir le vendre à la population, ce truc-là. Vous souffrez beaucoup. Ça va, c'est pire qu'avant. Parce qu'on est dans cette impasse-là, cette simple impasse. L'État ne fait jamais faillite, mais enfin, ça revient à l'équivalent d'une faillite d'une entreprise. Qu'est-ce qui se passe une entreprise qui fait faillite, après tout, si vous regardez bon, ouais, l'entreprise, vraiment, elle ferme, parce que heureusement, ne fait pas l'État. Mais enfin, bon, une fois que c'est fait, bon, y a des investisseurs qui ont perdu de l'argent. Mais les gens qui étaient dans l'entreprise, généralement, on ne les a pas assassinés hein, au moment de la faillite. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans une autre entreprise, et puis la vie repart, et l'économie repart. Donc, c'est pour ça que, moi, je ne suis en rien un pessimiste de nature, et je pense qu'une fois que. Il y a que le réajustement brutal aura été fait, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas très bien par la suite. J'ai aucun souci pour la prospérité, moi, dans les 5 ans qui... en tout cas, à mon avis, il va y avoir 2-3 années difficiles. Enfin, comment dire, avoir 3 années difficiles derrière, on n'a strictement rien arrangé. Donc on va passer 2-3 années difficiles. Après, ça va très bien se passer. Il ne faut pas non plus s'affoler. Il faut juste faire les choses intelligemment. C'est malheureusement pas... l'intelligence n'est malheureusement pas trop au pouvoir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire actuellement quand on voit le genre de décisions irresponsables qui sont prises. Alors, le problème, c'est que tout ça peut se passer mal. Peut se passer mal. Une des façons que ça se passe mal, c'est en effet la BCE. D'ailleurs, c'est d'aller dire... on va imprimer. On va imprimer cet argent qui nous manque pour ne pas faire défaut. J'ai tendance vraiment à penser que les Allemands ne vont pas rester. De toute façon, si vous faites ça, les Allemands n'ont pas intérêt à rester. Parce que s'ils sortent de l'euro, ils vont récupérer un marque qui va être demandé par tout le monde, qui va être très fort. Alors ça va leur poser des problèmes de compétitivité, bien sûr. Mais enfin, du coup, si vous imaginez que vous avez un nouveau marque qui vaut 30% plus que l'euro, les Allemands, leur dette en euros, du coup, elle fait quand même moins 25%. Hein. Sur 2000 milliards de dettes, ça fait déjà 500 milliards qu'ils gagnent dans l'opération, les Allemands, en partant. Donc là, je suis sur une vision très bassement économique. Mais je répète, on imagine mal le traumatisme qu'a été 1923 pour le peuple allemand. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement à cheval sur ces histoires de monnaie forte et sur ces histoires de lutte contre l'inflation et de ne pas faire n'importe quoi avec la monnaie. Donc là, on est en train de leur dire, bon, super, on a une bonne idée, on va foutre la monnaie en l'air. C'est ça qui se passe. Vous parliez tout à l'heure de la BCE, il faut aussi que je fasse un billet là-dessus, mais j'ai commencé à tracer ce week-end, c'est affligeant. La BCE, en plus... des histoires, elle n'est même pas en train de monétiser pour acheter directement de la dette aux États, mais elle rachète de la dette sur le marché secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire ces trucs barbares? C'est qu'actuellement, vous avez des investisseurs qui ont, par exemple, 1 million d'euros d'obligations italiennes. Donc il y a des investisseurs qui sont mal, sont un peu inquiets. Là. Les milliards le million d'euros là, d'obligations italiennes, l'investisseur, il a un peu peur. Et donc la BCE, toutes les semaines, en ce moment, est en train de racheter les obligations à cet investisseur allemand. Cet investisseur qui possède de la dette italienne. Donc ça, soit elle le rachète par elle crée l'argent pour acheter, mais derrière, après, elle diminue ses concours. Donc quand elle fait ça, pour le moment, la masse monétaire n'augmente pas. Elle fait attention à ce que la masse monétaire n'augmente pas. Donc ce qu'elle fait actuellement, ce n'est pas un problème de masse monétaire et d'inflation. Le problème, c'est qu'elle est en train de s'enfourguer dans son bilan des trucs pourris. C'est-à-dire qu'elle est en train d'acheter des créances douteuses. Pour ceux qui sont dans la banque, ça s'appelle une créance douteuse. Elle en achète et pas qu'un peu. Donc l'investisseur qui avait son million d'obligations italiennes, quand il s'inquiète beaucoup que la BCE lui dit « Tiens, je vous le rachète », il est content le mec, c'est cool. C'est-à-dire que j'avais une perte potentielle, mais la BCE me l'a racheté en fait. Si vous avez bien compris, c'est un jeu de... C'est un jeu d'une espèce de mistigris, hein, la dette publique à la base. C'est on vous rémunère bien, la rigueur, c'est sûr que c'est rentable, hein, tant que vous ne perdez pas. Mais c'est comme du Madoff. Hein. On n'en parle jamais, mais les premiers investisseurs qui ont prêté de l'argent à Madoff, bah, ils sont devenus multimillionnaires. Hein. Et ceux qui ont eu vraiment du 30% par an pendant 10 ans, ils ont peut-être perdu le capital à la fin, mais en tout cas, ils ont récupéré 4 ou 5 fois leur capital initial. Le problème du chaîne de Ponzi, c'est quand vous rentrez. Si vous rentrez au début... Puisque c'est... je répète, je ne sais pas si vous êtes très familier avec ça, c'est aussi ces ventes pyramidales ou ces mécanismes pyramidaux. Donc autrement dit, moi je vous emprunte 1000 euros et je vous dis, tiens, je vais vous payer 20% par an, sans risque. Donc j'ai 1000 euros. Je vais voir le deuxième, il dit, prêtez-moi votre argent, je vais vous rembourser. Donc vous prêtez 1000 euros. Comme j'ai les 1000 euros du début, je prends, sans le dire, 20% et je vous les redonne. Et je donne vraiment 20% au premier, sans mal, puisque je prends le capital de celui qui m'a prêté de l'argent. Comme j'ai rapidement des soucis que ça s'épuise, je prends un troisième, à 20%, et puis lui, il va dire, oui, il me paye vraiment 20%. Hein, voilà, vous prêtez votre argent. Donc on voit que c'est pyramidal. Donc autrement dit, ça marche très bien tant que vous avez des nouveaux prêteurs. Mais comme c'est exponentiel, bah, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus avoir 100% des habitants du pays qui vous prêtent de l'argent. Quand même ça arriverait, le coup d'après, il n'y a plus d'argent, et donc, effectivement, ça s'épuise très vite. Donc le dernier qui va prêter de l'argent et repartir avec rien... Par contre, le premier, il aura eu en effet peut-être 20% pendant très longtemps. Donc c'est un espèce en effet de mécanisme comme ça de cavalerie qui est très dangereux. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation où la dette était possédée à peu près, de toute façon, était possédée que par des investisseurs privés, la dette grecque en particulier, et plus ça va, plus elle est en train d'être achetée d'une façon ou d'une autre par des investisseurs publics. La BCE, le FMI, maintenant le FESF, donc en tout cas tous ces machins, qui sont en train de racheter à des investisseurs privés leur obligations grecques qui arrivent à échéance ou quand est arrivé à échéance et qu'ils ont récupéré leur argent, vous pensez qu'ils ne reprêtent pas la Grèce, hein, ces gens-là, ils sont très contents. Et donc la Grèce a un trou et c'est le public qui au final rembourse et en tout cas aide et prête à la Grèce. Donc quand on dit solidarité avec la Grèce ou il faut aider la Grèce, on n'est pas du tout solidaire avec les Grecs, du tout. Hein. On est solidaire avec les créanciers de la Grèce. Parce que quand j'ai donné de l'argent au gouvernement grec, qu'est-ce qu'il en fait ? Bah, immédiatement, il va rembourser de la dette à des banques ou à des États étrangers ou à des investisseurs privés. On n'aide jamais le peuple grec. Puisque l'argent, le peuple grec, il a déjà touché le jour où il a fait son prêt initial. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'argent. Ce n'est pas par la suite où on les aide. Bon, enfin, c'est intéressant de voir ce discours de « faut être solidaire, faut être solidaire, faut être solidaire ». Surtout qui est tenu, si vous regardez bien, en général, avec les gens qui détruisent tous les mécanismes de solidarité dans le pays. Crime de sécurité sociale, ce genre de choses, ils n'aiment pas trop. Mais la solidarité sociale des prêteurs obligataires, ça, pour le coup, elle est en place. Voilà, donc vous avez ces chaînes de Ponzi. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la rigueur, qu'il y a des investisseurs privés qui jouent, qu'ils y jouent. Mais le tout, c'est qu'il ne faut pas y rentrer, nous. Et tout le jeu depuis 2008 hein, est qu'on force les contribuables à rentrer dans ces mécanismes de cavalerie et ces schémas de Ponzi. Voilà, donc vous aviez des créanciers privés qui ont fait un choix, je pense qu'on a obligé personne à prêter aux États, qui ont décidé de prêter aux États, qui ont été rémunérés pour, au dernier moment, ils disent bah, « tiens, j'essaie de refourguer ça au public ». Et donc ils récupèrent leur mise, c'est public, et qui se retrouvent embourbés avec le risque. Et donc c'est exactement ce que fait la BCE. Si l'Italie fait défaut demain, bah, elle allait ruiner le gentil prêteur qui avait un million d'obligations publiques italiennes. Comme la BCE a racheté, bah, l'investisseur privé, lui, il n'a rien perdu. Puis maintenant, c'est la BCE, elle a un million dans son bilan de dette publique italienne. Bah, il se passe quoi si l'Italie elle fait défaut ? Hein, il se passe quoi ? Bah, il se passe une perte. Alors, il se passe une perte, on en est où ? Hein ? Bah, qu'est-ce qui se passe au niveau de la BCE ? Ouais, c'est pas très compliqué. La semaine dernière, la BCE en était sur son programme de rachat d'obligations pourries. Grèce plus Irlande plus Portugal plus Italie, puisqu'elle maintenant elle est en train d'aider l'Italie, a très exactement 242 milliards dans son bilan. Enfin, la BCE, l'eurosystème, hein, c'est d'ailleurs toutes les banques centrales, c'est pas que la BCE en tant que telle, puisque c'est tout un système de toutes les banques centrales de la zone euro, ils en étaient à 242 milliards d'obligations pourries rachetées, donc des créances douteuses qui ne sont pas comptabilisées comme des créances douteuses, hein. C'est toujours comptabilisé comme des créances à 100% sûres. 242 milliards dans le bilan, vous avez une idée du montant, du capital et des réserves de l'eurosystème ? Non. La BCE, mais l'eurosystème, il a 80 milliards. L'eurosystème, il a 80 milliards. Donc vous avez une structure, dans son bilan, elle a 242 milliards d'obligations pourries pour 80 milliards de réserves. Bah, en général, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et bien évidemment, si l'Italie dit « je ne vous rembourse pas la moitié », vous faites un trait sur la moitié des 242, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire faillite. Alors, faillite d'un banque centrale, c'est un peu particulier comme système. C'est un peu particulier comme système. Mais c'est juste pas bon du tout pour la monnaie. C'est juste pas bon du tout pour la monnaie. Et c'est ça qu'on fait. Mais toutes les semaines, la semaine dernière, elle en a racheté 10 milliards d'obligations italiennes. C'est-à-dire 10 milliards d'obligations pourries rachetées dans le bilan de notre banque centrale. Les gens trouvent peut-être que c'est bien. Hein. Moi, non. Après c'est un choix, c'est discutable. Hein. Ça, c'est une simple gestion des risques. Mais je vois pas pourquoi on risque de foutre la banque centrale en l'air et la monnaie en l'air pour que l'investisseur qui a prêté 1 million d'euros à l'Italie ne perde pas d'argent. C'est un risque de prêter son argent. Et je vois pas pourquoi il faudrait se dire de lui, alors que je suis pas solidaire de l'investisseur qui a prêté 1 million d'euros en actions Société Générale et qui a perdu 90% de son investissement. Et puis pourquoi la banque centrale, elle monétiserait et elle imprimerait de l'argent pour aider ces investisseurs-là? Pourquoi elle n'imprimerait pas aussi? Bah allez, puisqu'on y est, votre boîte est en faillite, bah demandez à Mario Draghi, il va vous imprimer 1 million d'euros, il vous le donne, gratuit, hop. Alors, si on pouvait créer de la richesse en imprimant du papier, on s'en serait rendu compte depuis le temps. Hein, ça fait 3 siècles qu'il y a ça dans les esprits, qui tient en effet à la nature assez particulière de la monnaie scripturale, de cette monnaie donc qui n'existe pas vraiment, puisque c'est que des jeux d'écriture, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin, on ne créera pas de la richesse en imprimant du papier. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez facturer les pertes à tout le monde. Tout ça va se terminer par un grand jeu de qui veut perdre des millions. Ces sommes-là vont devoir, d'une façon ou d'une autre, comptablement remises d'équerre. Soit par un défaut, dans ce cas-là, vous êtes le titulaire, vous avez perdu l'épargne, soit par une saisie de l'épargne, vous aviez une forme d'épargne, on vous l'a pris sous forme d'impôt, soit par une forme d'inflation, et donc dans ce cas-là, c'est tout un chacun qui, par la diminution de la valeur de la monnaie, va payer. Mais entre faire payer tout le monde ou faire payer ceux qui ont prêté de l'argent aux États, il me semble qu'il y a une solution qui, et même de façon très libérale, est beaucoup plus évidente que les autres. Après, on peut avoir d'autres choix, je veux bien que ce soit discutable. Mais juste, il faut arrêter de dire qu'il n'y a qu'à imprimer et puis il n'y aura pas de souci. Ça, c'est extrêmement malhonnête. Quand je répète, on a ces sommes-là dans les bilans de la Banque Centrale. Mais ça, ce que je vous dis, c'est la Banque Centrale aujourd'hui. Si l'Italie fait défaut, c'est pas remboursé, mais déjà que vous détruisez le bilan de la Banque Centrale. Mais je ne vous parle même pas d'un début de monétisation de l'argent dont on a besoin l'année prochaine pour rembourser les dettes. Hein. C'est en plus des 400 milliards qui manquent. 400 milliards pour la France. Hein, c'est 400 milliards aussi pour l'Italie, c'est 400 milliards pour l'Allemagne, c'est 200 pour l'Espagne. Voilà, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros qui manquent à l'appel. On verra comment ça va se finir. Hein, mais je dis juste que dans les solutions qui sont devant nous, en effet, celle du défaut est, à mon sens, la plus logique, la plus rationnelle. C'est celle qui se passe en général et c'est la plus juste. Mais je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est une très bonne idée, il n'y a qu'à faire ça. Ouais, ça a des conséquences qui sont très douloureuses, mais il y aura des conséquences d'une façon ou d'une autre. Et ça, les conséquences, je dirais quelque part, on les a acceptées quand on accepte tous les ans qu'il y ait 300 députés qui votent des lois de finances en déséquilibre de juste quelques dizaines ou maintenant une centaine de milliards d'euros. Et quand le député fait ça, il est juste en train de vous dire, chers amis, vous allez payer 100 milliards d'euros en plus, un de ces quatre. Ça s'appelle un prêt, hein. Moi je dis pas le contraire. On accepte tous ça depuis 40 ans. C'est sûr qu'on vit mieux hein, en faisant ça. Moi je vis mieux si je dépense 50% plus que ce que je gagne. Hein. Vraiment, ça va aller mieux. Hein. Et si je fais ça pendant 20 ans, vraiment, ça va être cool. Mais ça finit pas bien. Hein. Pardon, je crois que le monsieur attend depuis un petit moment. Et je vais en profiter. Ah, pardon.
Merci. Oups, c'est un peu long. Oui, juste une petite question, c'est est-ce que cet argent correspond bien à l'argent réel qui a été prêté aux États? C'est ça la question qui me venait à l'esprit, c'est que vu les masses monétaires et vu les masses monétaires qui ont été créées, je ne pense pas que ça corresponde à de l'argent réel, en fait, au départ.
de l'argent prêté à quel niveau aussi. Vous avez eu la création monétaire. Je pense aussi, quand on dit tout à l'heure, oui, mais les États ont imprimé, ou par exemple, effectivement, hein, depuis quelques années, il y a eu des augmentations très fortes de la masse monétaire. On dit, bah, regardez, on a automatisé, il n'y a pas eu d'inflation. Je pense que vous l'avez entendu, ça aussi. Bah, regardez, depuis 10 ans, il y a eu des créations monétaires importantes, non pas par la banque centrale, mais par les banques privées, parce que c'est généralement elles qui créent l'argent. Et puis, l'inflation est restée à 2%. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on parle d'inflation des prix à la consommation. Moi, je sais pas vous, mais il m'a semblé comme les prix de l'immobilier avaient un tout petit peu monté depuis 15 ans. Le patrimoine immobilier, il a juste doublé. Doublé. Moi, j'appelle ça de l'inflation. Alors après, quand on achète une maison, qu'elle vaut deux fois plus que ce qu'elle valait il y a 15 ans, c'est une sacrée inflation quand même. Et puis qui pèse tous les mois sur nous. Ah, mais évidemment, c'est pas ce qu'on appelle l'inflation des prix à la consommation. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas beaucoup monté, mais enfin, que ce soit le prix de la baguette de pain qui monte, ou le prix du loyer, ou de l'investissement immobilier que vous faites, c'est quand même juste de l'argent en moins. Hein. On nous parle beaucoup de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est super le modèle allemand. Regardez. En Allemagne, c'est quand même, les prix immobiliers sont deux fois moins chers. C'est-à-dire, ça change la vie d'un Allemand, quand même. Alors, ça s'explique, parce qu'ils ont une population décroissante. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de bulle, en fait, les Allemands. Et pour une raison, voilà, plusieurs raisons, mais enfin la principale, c'est aussi que l'Allemagne, elle a une population qui baisse, alors que nous, on a une population qui monte. Donc forcément, ça a un impact immobilier. On ne se rend pas compte, mais c'est 200 000 Allemands de moins tous les ans. Hein. C'est-à-dire tous les 5 ans, il y a 1 million d'Allemands en moins en ce moment. Ça fait beaucoup de logements en plus, hein, au bout de 5 ans, hein, qui se sont libérés fortement sur le marché.
L'immobilier, il y a Paris, il y a le reste de la France.
Oui, tout à fait, non, c'est partout. Il y a
vous avez une ville comme Pau, un quart des logements sont vacants.
Oui, bien sûr, mais là il y a de gros problèmes, et partout, hein, la bulle a été... Il reste deux bulles qui n'ont pas vraiment explosé, c'est la bulle française et la bulle espagnole. Ça va pas tarder. Hein, ça, c'est... Mais oui, yes, mais oui, mais c'est vrai, hein, c'est yes pour les jeunes aussi, au bout d'un moment, on va pas serrer la ceinture. Bien sûr.
Non, c'est pas possible.
Oui, mais ça, c'est... Bien sûr qu'on peut pas acheter. En 1983, pour le même taux d'effort, vous aviez trois fois plus grand à Paris. Enfin, je dirais, ce qu'on nous promet, c'est nous serrer la ceinture pour 30 ans, pour rembourser Liliane Bettencourt et compagnie, en vivant dans des cages à lapins. Ça risque de pas se faire quand même. Hein. Enfin, on peut croire que ça va se faire, on peut croire aussi que ça va pas se faire. Hein. Pas sûr que les actifs, ils aient vraiment envie de ça. On va voir. Hein. On va voir. Pas marcher un an, pas marcher deux ans, pas marcher trois ans. Combien de temps ça va marcher, ce truc-là? Si on a que ça à vendre au peuple, c'est pas extrêmement réjouissant. Mais si vous regardez, c'est un peu ce qu'on vous vend. Hein. Comment ça vous dire, on va faire des efforts, ça c'est plus possible. Votre modèle social, il tient pas à ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est Merkel qui a dit il y a 10 ans de souffrance. Ouais. Ok, mais enfin pourquoi, pour qui, hein? C'est ça aussi qui est jamais... Qui est jamais dit au bénéfice de qui, c'est la question. Mais tout ça est toujours un discours de qui est juste, enfin juste, qui est vrai, au sens où les marchés continuent de vous prêter de l'argent. Hein. Au sens où il continue d'y avoir tous les mois des gens qui décident de nous prêter des millions d'euros pour qu'on continue à faire la TVA sur la restauration à 7 maintenant, pour que on aille financer... Enfin, voilà, tout est n'importe quoi, sans lever les impôts qui sont en face. On voit très bien que les taux se tendent partout et que c'est pas un indicateur d'une pérennité gigantesque, à mon avis, de ce système-là. Mais qui est un système fou. Hein. Enfin voilà, c'est ma vision, mais... des fois, j'ai honte de dire ça tellement je trouve que c'est du bon sens. Avoir des qualités de raisonnement maintenant... Parce que c'est quand même amusant, ce truc-là. On est dans une situation où ce qu'on ferait jamais au niveau d'un ménage, mais jamais, vous groupez les ménages dans un truc appelé association ou entreprise, vous le feriez jamais. Par contre, vous appelez ça État, on trouve que juste, il faut le faire, c'est une très bonne idée. Que la preuve, on l'a fait 50 fois dans le passé, 50 fois ça s'est mal passé. D'ailleurs, attendre le 21e siècle pour avoir ce genre de raisonnement, c'est quand même intéressant, mais je crains que ça finisse pas de façon très simple. J'ai pas tout à fait répondu au monsieur. Donc votre question, c'est quoi? C'est d'où est venu l'argent? L'argent, il est venu. Si, c'est de l'argent réel. Après, ça dépend ce qu'on appelle l'argent réel, puisqu'on est aujourd'hui sur des systèmes d'argent dette, où finalement, c'est avec des promesses de dette, des reconnaissances de dette ou des promesses de payer. Je sais pas si on aura le temps tout à l'heure de parler aussi de commerce international. mais qui ramène à la même chose, qui est finalement comment on paye. Ça paraît nébuleux, mais pourtant c'est quand même très simple. Comment on paye ? Comment on paye la Chine aujourd'hui ? Parce qu'on est un peu en déséquilibre. Enfin, même si je ne veux pas stigmatiser la Chine, parce qu'on le fait assez. Notre problème, ce n'est pas la Chine, c'est l'Allemagne, pour différentes raisons. Mais enfin, on va prendre l'exemple de la Chine. On est en léger déséquilibre avec eux. Donc finalement, quand on commerce, ils nous donnent plus de produits que ce qu'on leur donne, nous, de produits. Donc la différence entre les deux, c'est de l'argent. Et ils accumulent de l'argent. C'est donc ce qui se passe pour combler. Or, la base du commerce, c'est que vous échangez normalement des produits contre des produits. Il faut dire, ça reste du troc. Qu'il y ait une étape intermédiaire avec de l'argent, c'est une chose. Mais au final, ce qu'ont besoin les Chinois, c'est pas d'argent. C'est d'avoir quelque chose de réel, d'avoir des produits, d'avoir des biens. Donc aujourd'hui, vous avez ce déséquilibre-là. Donc les Chinois, ils accumulent de l'argent. De toute façon, les Chinois, ils ont 3 000 milliards de dollars, quoi, les Chinois, sur leur réserve de change. Ok, mais ils en font quoi ? Ça, depuis 71, mais même avant, depuis Bretton Woods, qui n'a jamais marché, vous n'avez pas répondu à cette question-là, c'est-à-dire comment je transfère de la richesse, puisque c'est ça, si vraiment on est honnête, parce que j'ai commercé, je suis en déséquilibre, je donne de la richesse aux Chinois. Aujourd'hui, on leur a donné du papier. Et les papiers, ils n'en font pas grand-chose, les Chinois, pour le moment, ils le stockent. Bon, c'est bien gentil, mais imaginez le contraire, imaginez qu'on stocke des yuan. Hein. Ok, mais qu'est-ce qu'on fout de yuan ? Non, mais même 20 000 milliards d'euros de yuan, même 20 000 milliards de yuan, qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Tant que je ne vais pas acheter des choses en Chine, je stocke une masse de papier, ok, c'est super, ok, ça vaut beaucoup en Chine, mais je ne suis pas en Chine, donc ça ne vaut pas grand-chose chez moi. Et donc, comme vous ne transférez plus de richesse, vous n'avez plus de limite, ce que vous transférez, c'est des promesses de payer. Et il n'y a aucune limite à la promesse de payer. Moi, je peux vous promettre de payer 1 000 milliards. Hein. Je vous le signe, si vous voulez. Je vous le signe, c'est pas gênant. Autant au 19e siècle, alors il y avait ses défauts, mais vous étiez en régime des talons or. Donc en fait, vous payez avec de l'or. On serait toujours en système d'étalon or. Il aurait fallu qu'on donne de l'or à la Chine. Donc la Chine en ferait quelque chose. Mais surtout, c'est pas tant que la Chine en fait quelque chose, c'est que fatalement, rapidement, vous n'auriez plus d'or. Et donc forcément, votre déséquilibre, il aurait fallu que d'une façon ou d'une autre, vous le fassiez cesser. Donc c'est pour ça que les déséquilibres commerciaux sont extrêmement dangereux. Ça, c'est quelque chose qui avait été très bien vu par Keynes dans les discussions qui ont abouti à Bretton Woods. Au final, il n'a pas eu gain de cause. Mais vraiment, il faut arrêter de dire, commercer, c'est très bien, c'est super de commercer. Mais il ne faut pas d'excédent, il ne faut pas de déficit, parce que sinon vous arrivez avec ce problème-là, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à transférer de la richesse pour compenser. Donc c'est pas bien d'être en déficit commercial, c'est pas bien d'être en excédent commercial. C'est-à-dire, on devrait punir, et c'était l'idée de Keynes, punir, trouver un système qui désavantage aussi le pays excédentaire. Et quand on entend autant de choses nous dire que le système allemand c'est super, regardez, ils exportent beaucoup, c'est bien qu'ils exportent beaucoup, mais in fine c'est pas qu'ils exportent beaucoup qu'on vous dit, c'est qu'ils sont en excédent commercial très fort, donc ils gagnent beaucoup d'argent en commerçant avec l'étranger, mais ça veut dire que l'étranger perd beaucoup d'argent en commerçant avec eux, et donc vous êtes en train de théoriser un truc en disant, on va jouer un super jeu, je vais toujours gagner, vous allez toujours perdre.